Ele é bebê, ele é bebê.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde, des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Doula, créatrice de Maman de la Lune et éducatrice Montessori et Nature dans l'association Brin de Curieux. Je suis également la maman de trois merveilleux enfants qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements. Libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés aussi. Lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Pour cet épisode numéro 6, j'invite Karine, une femme qui avait fait le deuil de la maternité. Mais la vie est pleine de surprises. Elle vient nous conter la naissance de son fils par césarienne et son cheminement vers leur rencontre. Je vous souhaite une belle écoute. Karine, je te souhaite la bienvenue. Je suis vraiment ravie que tu viennes nous raconter ton histoire.
Merci.
J'aime beaucoup le spontané avec lequel tu es venue me voir en me disant « Oh tiens, moi aussi, j'ai envie ». Et du coup, j'ai très hâte que tu nous racontes un petit peu, parce que tu as un parcours qui est un peu atypique aussi.
Oui, un petit peu beaucoup.
Dis-moi en plus alors.
Alors, donc j'ai 49 ans déjà. Oui. Voilà, j'ai eu mon fils à 43 ans, parce qu'au départ, on m'avait toujours dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Donc, moi je m'étais faite à cette idée. J'avais fait le deuil d'avoir un enfant un jour. Et puis, un jour, j'ai eu une première grossesse et donc fausse couche. Donc, je me suis dit, bon, c'est la nature qui m'a fait une sale blague, une sale blague, et qui me remet à ma place à nouveau en me disant, ben non, en fait, t'y as cru, mais t'en auras pas finalement d'enfant.
Tu as eu un diagnostic particulier pour te dire que tu ne pourrais pas avoir d'enfant ?
Oui, en fait, j'ai passé divers examens. C'était vraiment des trompes. En fait, il y avait le souci, sans entrer dans les termes techniques, etc. J'avais même essayé avec mon ancien partenaire des traitements en mono, etc. Et il n'y a rien eu. Pour moi, c'était un non définitif, j'aurais jamais d'enfant, quoi. Et puis, à mes 40 ans, apparemment ça a compté. Ma gynécologue m'a dit que ça avait compté dans mon histoire, dans mon corps en tous les cas. J'ai eu un cancer des seins. Voilà, donc un traitement hormonal très, 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 très lourd. Et donc les tumeurs, on les a retirées, etc. Mais apparemment, ce traitement hormonal aurait complètement déréglé mon corps. Et aurait peut-être pu permettre justement d'être enceinte, de favoriser ça. Hein, ça a été un gros, gros bouleversement, en tous les cas, au niveau du corps. Donc ma gynéco, il a fait cette hypothèse-là. Après, j'en serai jamais sûre. Le corps, de toute façon, hein, il y a encore ses mystères, et tant mieux.
Oui.
Tant mieux. c'est aussi bien, si moi j'ai envie de dire. Et au mois de novembre 2017, j'étais en Angleterre. J'étais à Londres. Et là, moi qui mange jamais de viande rouge, jamais. Moi, je suis pas une fan de viande. J'ai une envie de viande rouge, mais saignante, un truc, mais incroyable, avec du gros sel fin. Il fallait vraiment un truc tout particulier, quoi. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai jamais ressenti ça. Il y a un truc, je me suis dit, je suis enceinte. Et pour moi, c'était enceinte, mais la foi, la bonne foi, quoi.
Okay.
La vraie. voilà, je l'ai senti. Et donc, j'ai mangé cette rouge. Et quand je suis rentrée en France, effectivement, j'ai fait un test de grossesse, donc positif. J'étais entre une grosse vague de joie et une grosse méfiance par rapport à mon corps, en fait, qui m'avait joué quand même pas mal de tours au niveau de tout ce qui a trait à la féminité. Mmh. Voilà. Donc j'étais quand même sur la réserve, mais en même temps envie de c'est possible. Donc je suis allée voir une gynécologue qui n'était pas la mienne parce que la mienne était enceinte.
D'accord.
Et c'était une gynéco qui était complètement stressée, quoi. Elle a vu mon âge, fameux 43 ans. Et elle a dit, oh, il va falloir faire super attention, il va falloir vous reposer, il va falloir faire plein de tests, vous allez être extrêmement surveillée. Enfin, et du coup, de cette joie, je me suis dit, mais c'est comme si elle m'écrasait, elle m'assommait par rapport à tout ça, quoi. Comme si elle me retirait la joie de cette merveilleuse nouvelle. En sachant que je lui avais expliqué le contexte juste avant, quoi. Donc, j'ai dit, wow, c'est costaud. Elle m'a dit amniosynthèse obligatoire.
Mmh. Voilà. Elle t'a dressé un tableau très négatif avec tous les risques et tout.
Oui, c'est ça. Et puis, je ne savais pas si c'était pour moi qu'elle le faisait ou si c'était pour elle se protéger.
Mmh.
Voilà, j'avais vraiment un doute. Hein. Et puis, je lui dis, mais en fait, je suis auto-entrepreneur, donc ce que vous me demandez, moi je travaille 6 jours sur 7, je ne peux pas m'arrêter comme ça, je n'ai pas de congé mater, je n'ai pas les droits, les mêmes droits qu'un salarié peut avoir. Mm. Voilà, donc elle me fait oui, mais c'est pas grave, repos. Et bon, je me débrouille, donc hein, voilà. Mm. et après, elle me fait l'écho, et là, je vois son petit œuf.
Mm.
Et là. Là, il y a l'émotion qui vient. J'étais émue comme là, quoi. Il est là, il est en vie. Il est vraiment là, il est vraiment en vie. C'est le vrai, quoi. C'est pas un œuf clair, c'est pas. Voilà, enfin, c'est la réalité. Je me suis dit ça et je me souviens qu'elle me parlait et en fait, j'entendais juste un bon, bon, bon. Je l'écoutais plus. Pendant la rencontre là avec mon fils, je ne l'écoutais plus. J'étais vraiment avec lui et juste avec lui. Après l'écho, moi j'ai demandé la petite photo.
Oui.
parce qu'il me fallait cette preuve.
Tu étais à combien de semaines là du coup de grossesse?
À 6 semaines.
D'accord. Okay.
À 6 semaines, ouais. Et je devais aller au ski, elle me disait mais non, pas de ski, enfin bon, bref, il fallait plus que je vive, que je sorte, que je danse, que je ne prends rien du tout. Mm. Et il fallait que je m'occupe de réserver la maternité, enfin bon, c'était très, très négatif pour quelque chose d'heureux, en fait. Donc je suis repartie, moi j'étais heureuse de savoir que ce petit bout était en moi, et en même temps... pleine de questions, quoi, parce que c'était une éventualité que je m'étais pas posée avant. Le fait d'être enceinte, pas enceinte, je l'avais tellement mis de côté, j'avais tellement renoncé, que là, je commençais, en même temps que je réalisais que j'étais enceinte, il y a un vent de peur, de panique qui arrivait en moi, en me disant mais Karine, t'as 43 ans, mais tu te rends compte, quand il aura 20 ans, t'en auras 63. Est-ce que c'est pas trop égoïste? Ta situation de couple, elle est pas. Enfin voilà, c'était pas au top. Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions pour savoir si c'était égoïste ou pas. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, ces questions-là, c'est pas les miennes, hein, c'est celles de la société, quoi. Merde. toi, tu as envie de l'avoir, cet enfant, c'est peut-être ta seule et unique chance, et ben fonce. Voilà. Donc, je me suis écoutée, j'ai essayé de mettre tous les pia-pia-pia qu'il y avait autour totalement de côté pour vivre cette grossesse pleinement et sereinement. Et donc, j'ai vécu tranquillement cette grossesse. J'ai pas, alors, j'ai pas particulièrement aimé être enceinte. J'ai trouvé ça très bizarre, très effrayant aussi dans les premiers mouvements. Je me souviens du mouvement de mon fils avec les petites bulles dans le ventre. Je me suis dit, oulala, c'est très très étrange comme sensation quand même. Tout le monde dit, ouais, c'est beau et tout. Mais tu sais, voilà, la première fois que ça se passe, j'ai été très très surprise. Et puis voilà, enfin, j'ai appris au fur et à mesure à entrer en contact avec lui, à faire attention à lui, à faire attention aussi à mon corps. Voilà, ça m'a reconnecté complètement à mon corps, aux possibilités qu'il avait finalement, par rapport à tout ce qu'avaient pu dire les médecins. Voilà. Et donc, on s'est réconciliés, lui et moi, mon corps et moi. Et j'ai trouvé qu'il était drôlement capable, en fait. Donc ça, j'ai trouvé que c'était la plus belle preuve d'amour pour moi envers mon corps, de lui dire qu'il était super capable, qu'il était magique, quoi, de créer la vie, et que voilà, je le remerciais tous les jours pratiquement de ça. Je voyais ma poitrine se transformer, ce ventre s'arrondir, des rondeurs partout. Et en fait, le fait de grossir ne m'a pas fait peur. J'étais bien dans mes pompes et j'étais à ma place en tant que femme enceinte. Voilà. Voilà, j'ai travaillé jusqu'à mes 8 mois de grossesse. J'ai arrêté de bosser pour le mois d'août. Et puis, au mois d'août, je me suis posée, j'ai pu souffler un petit peu. Donc, c'est là où je suis rentrée vraiment à 100% en contact avec mon fils. Puisque là, j'avais vraiment le temps. C'était vraiment du 6 jours sur 7. Donc, même si j'entrais en contact avec lui, je ne me posais pas à 100%. Là, c'était un mois de bonheur total. J'ai pu caresser mon ventre, j'ai pu observer mon ventre bouger, j'ai pu sentir mon loulou en moi. J'ai pu me projeter aussi avec lui. Ça a été vraiment un mois où je me suis vraiment beaucoup projetée. Quelle maman je serais. Ok, je suis éducatrice de jeunes enfants, mais c'est pas pareil d'être maman. J'ai envie de faire telle pédagogie, puis il ira à telle école, et puis il fera ce qu'il veut comme métier, et puis il fera ce qu'il veut au niveau de son couple, et puis il fera. Ben voilà, j'étais vraiment en train de me préparer à être maman. Ah oui, et je voulais juste te dire aussi, si pendant ma grossesse, il y a un truc qui m'a un peu dérangée, c'est les échographies 3D.
Oui.
On ne m'a pas laissé le choix, en fait. On m'a imposé l'échographie 3D. Moi, je ne la voulais pas. Je voulais l'échographie normale. Je ne voulais pas voir le visage de mon fils pour me laisser l'imaginer, en fait.
D'accord.
Et on m'a systématiquement imposé. Ce que j'ai aimé, c'est que mon fils, à chaque fois, il avait un pied, une main, un truc devant le visage. Et j'ai dit, oui, t'es mon fils. C'est cool. T'aimes pas les paparazzi, c'est sympa. Et ça, j'ai trouvé que... Enfin voilà, on pourrait poser la question aux mamans, en fait. Est-ce que vous souhaitez voir le visage de votre enfant en 3D ou pas? Enfin, voilà, juste questionner, voilà, juste peut-être de voir ce qu'elle souhaite vraiment.
Oui, en effet.
Et donc, au mois d'août, j'étais censée accoucher le 27 nuit. Rien ne se passe, mais visite obligatoire à l'hôpital. Donc, pendant toute ma grossesse, j'ai été suivie par une sage-femme qui ne faisait pas partie de l'hôpital. Et donc, ce qui a été un petit peu compliqué, parce que l'hôpital, du coup, comme je n'avais pas fait le suivi chez eux, me le reprochait un petit peu. Donc, quand je suis allée le 27 pour ma visite de terme, donc ils m'ont dit que j'avais moins de liquide amniotique, effectivement... Je sentais un peu moins mon fils bouger, mais ils m'ont dit ne vous inquiétez pas, tout va bien, vous pouvez repartir chez vous. Ok, vous revenez, ils m'ont dit de revenir le lendemain. Donc le lendemain, pareil, fallait que j'y retourne. Ce jour-là, j'avais rendez-vous en fin d'après-midi, mais ce jour-là, j'ai pratiquement pas senti mon fils bouger. Donc là, j'ai vraiment une grosse inquiétude. Et j'avais dit à mon partenaire, j'avais dit, après la visite, moi, je rentre pas. Je reste, moi, je veux rester là-bas. Quoi. Je veux entendre son cœur, je veux ça, quoi. Oui. Je lui ai dit, je ne rentre pas. Et donc, effectivement, monitoring, etc. Lui allait bien, mais il bougeait beaucoup moins, du fait aussi que j'avais encore moins de liquide amniotique que la veille.
D'accord.
En sachant que je n'avais pas eu de perte, etc. Enfin, quand je posais les questions, je n'avais pas forcément de réponse claire non plus par rapport à tout ça. Il y a une infirmière qui m'a dit, il y a peut-être aussi votre âge qui fait que... Bon, là, j'ai revenu quand même souvent. Hein.
Mm-hmm.
Voilà. Comme quoi, j'ai trouvé que c'était un petit peu indélicat. Et puis bon, ça peut être la réalité comme ça peut être aussi
oui. Une chose. Oui, en effet, des mamans qui dépassent le terme, il y en a plein et qui ont moins de liquide sur la faim aussi.
Mais c'est ça. Donc, le fait de dire c'est peut-être lié à votre âge, j'ai trouvé que c'était un peu léger
mm-hmm.
et qu'à la limite, si elle n'avait pas de réponse, ce terme aurait été aussi une possibilité. Quoi.
Mm-hmm.
Voilà. Ou me dire simplement qu'elle ne savait pas, tout simplement. Quoi. Donc voilà, après, ils se sont consultés entre eux, ils ont vu avec le médecin, et effectivement, ils ont décidé de me garder, en sachant que je leur avais dit que moi, je partais pas, en fait, je rentrais pas. Et ils m'ont expliqué qu'ils allaient me provoquer l'accouchement, en me mettant le fameux tampon, là, qui est censé déclencher les contractions. Voire 24 heures à 48 heures et au-delà, ce serait césarien. Donc, ok. Donc là, je commençais à me préparer aussi psychologiquement à éventuellement vivre une césarienne parce que, en fait, j'avais pas imaginé d'accouchement avec opération, épisio, etc. Pour moi, c'était un accouchement, c'est un truc naturel et ça se fait, et ça se fait quoi. Voilà, je m'étais pas documentée, j'avais pas pris ce temps en fait. Donc c'est comme ça, j'ai pas pris. Et quand ils m'ont parlé de césarienne, j'ai fait waouh, ça en fait, j'avais pas pensé du tout à cette possibilité. Et en gros, je la refusais quand même en bloc, cette possibilité-là. Je me suis dit, ça va pas être possible, je veux pas, je veux sentir mon enfant. Je veux sentir le passage, quoi. je veux sentir sortir, etc. Donc, j'ai fait des appels à qui voulait l'entendre pour que ça marche naturellement ou qu'au moins le déclenchement fonctionne. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai pas eu du tout de contraction liée au tampon. Voilà, et j'ai rien eu du tout, même pas le ventre qui se durcissait, rien. Donc, on a reposé un second. On a réattendu encore 24 heures, pareil, rien du tout. À un moment donné, comme mon fils bougeait quasiment plus, je le sentais vraiment plus quoi. Ils m'ont dit, on vous fait la césarienne si vous êtes d'accord. Avec le recul, si vous en êtes d'accord, j'étais dans un tel état de stress que j'avais tellement peur pour mon bébé que cette question, elle me pose question, justement, maintenant. Je me dis, mais est-ce que c'était une vraie question ou est-ce que c'était pour eux ou, voilà,
est-ce que c'était à eux de se positionner en disant maintenant c'est ce dont vous avez besoin, madame, ou est-ce que
c'est ça.
C'est lourd comme choix.
Ouais, c'est ça. C'est comme s'il fallait que moi, je porte la responsabilité, mais que du coup, c'était pas de leur fait. Enfin, je dis, c'est un petit peu inverser les rôles. C'est leur boulot à eux, de médecins, de savoir aussi, même si on a notre mot à dire, quoi. Donc bon, ben, j'ai dit oui à la césarienne parce que j'avais peur pour mon fils et que vraiment je sentais aucune contraction quoi. Et donc on est allé en salle, qui m'ont emmené sur un brancard, etc. J'étais en bleu de la tête aux pieds. Je pleurais, je me souviens que je pleurais parce que c'était pas l'accouchement que je voulais. Du tout. Et arrivé dans la salle d'opération, il y a toute l'équipe médicale, ils étaient tous dans leur truc, à expliquer chacun à son stagiaire, voilà, tu fais ça, tout à tac, ok. Et à un moment donné, j'ai dit, mais est-ce que quelqu'un va me parler, s'il vous plaît? Et il y a une infirmière qui est venue et qui m'a dit, désolée, je suis avec vous et je ne vous lâche plus. Je dis merci parce que là, je commence à entrer en panique en fait. Et vraiment, je me disais, mais si personne ne me parle, moi j'ai envie de me lever et de partir, quoi. Et on m'explique ce qu'on va me faire, etc., quoi. Et donc, elle a été très contenante, cette personne. Elle m'a vraiment accompagnée tout au long de la césarienne. Elle était d'une bienveillance. Et heureusement qu'elle était là.
Oui.
Vraiment, heureusement. Parce que je pense que j'aurais eu vraiment du mal, sinon avec encore plus de mal avec cet accouchement, avec mon accouchement. Et donc, il y avait mon partenaire. J'avais exigé qu'il soit là. Et je me souviendrai toujours de ce grand panneau bleu devant moi, où j'ai pu mon ventre, je voyais jusqu'à ma poitrine et après il y avait ce rideau bleu, quoi. Après l'anesthésie dans le dos, faite par un stagiaire qui m'a un petit peu loupé aussi, je me rappelle de ça. C'était un petit peu chaotique et je me souviens de mon corps attaché mais qui se ballottait et moi qui n'avait aucun moyen de maîtriser ce corps en fait. Et c'est comme si mon corps ne m'appartenait plus du tout. Et où il y avait quelques explications, mais pas tant que ça. On vous ouvre, ok, le corps. Et heureusement, l'infirmière me mettait les sous-titres en fait à tout ce qui se passait, heureusement. Et à un moment donné, j'ai entendu mon bébé pleurer. Et là, j'ai dit, waouh, c'est bon, il en vit. Donc, c'était le meilleur des moments. Et là, l'infirmière, la sympathique, l'a pris et est venue me le montrer. Je ne l'ai pas vu beaucoup. Une minute à peu près, ou deux minutes. J'ai pas pu le prendre dans mes bras parce que j'étais anesthésiée. J'ai juste pu lui faire un petit bisou et hop, ils l'ont emmené. Et j'ai dit à l'infirmière, je fais le papa, il fait du pot à pot, le papa, il fait du pot à pot. Je me souviens que c'était un truc. Il fallait que ça ait lieu, ce pot à pot. Enfin, pour moi, c'était quelque chose d'important, de rencontre avec son enfant, en termes aussi bien pour le bébé que pour la maman, enfin, au niveau tactile, au niveau de l'odeur, au niveau du corps, quoi, des deux corps qui se rencontrent. Et le fait de savoir que c'était pas moi, mais le papa qui faisait le pot à pot, ça m'a... J'ai été triste. Et je sentais que l'équipe continuait son boulot là sur mon corps, sans forcément pareil me donner d'explications. Et je me sentais vide, vraiment vide à ce moment-là, triste, vide. Et c'était vraiment heureuse d'avoir mon fils, mais malheureuse qu'on me retirait aussi vite. et malheureuse aussi de me sentir dépossédée à nouveau de ce corps. Voilà. C'était vraiment les sensations. L'infirmière m'a apporté des photos, elle m'a envoyé par SMS, etc., de mon fils avec son papa, pour me rassurer aussi. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un geste génial, quoi, qu'elle était super humaine, vraiment. Et donc après, je suis allée en salle de réveil. En salle de réveil, j'ai dormi, j'étais fatiguée, j'étais nauséeuse, enfin, c'était un état bizarre. Et quand je suis allée dans ma chambre, après ils ont amené Elliot, il était habillé. Mmh. Ça m'a choquée, en fait, de le voir avec son petit bonnet, son petit pyjama, ses petites chaussettes. Je voulais tellement le voir à poil. Qu'il soit tout nu et qu'on me le mette sur moi, etc. Et qu'on permette, quoi, cette rencontre. Je sais pas pourquoi, je me suis pas autorisée, j'étais peut-être fatiguée, je sais pas, hein, c'était peut-être un ensemble. J'ai demandé à le mettre au sein. La mise au sein... je me souviens de lui, je le regardais, je le dévorais les yeux, je le trouvais beau. Il avait les yeux ouverts et c'est comme si on se regardait vraiment. Il était connecté, quoi. Vraiment connecté et j'étais connectée à lui. Au niveau de la mise au sein, pareil, je m'étais pas renseignée sur l'allaitement, je savais pas si je voulais allaiter ou pas, je me suis dit on verra bien. Bon, bah tant pis. J'ai eu une première auxiliaire qui était carrément pour l'allaitement, qui était vraiment au top, qui était de merveilleux conseils, vraiment. Elle m'a accompagnée jour et nuit pour la mise au sein, etc. Et donc, je commençais à y arriver, même s'il y avait des petits moments où je me demandais, bon, je vais y arriver, je ne vais pas y arriver, il ne pète pas, il a du mal à prendre. Et puis en même temps, c'était le moment de cette rencontre, quoi, où on se rencontrait, mon fils et moi, c'est quelques jours. Donc, c'était tout particulier quand même, ces jours à la maternité, c'est un monde à part, quoi. Mmh. C'est un monde à part, hein. Ah ouais, c'est complètement ses limites irréalistes, quoi, ce qui se passe. Et il faut se reconnecter avec ses émotions, mais en même temps, il y a un flot d'émotions, c'est un feu d'artifice, quoi. Ça part dans tous les sens. Il y a les larmes de joie, les larmes d'amour, les larmes de tristesse, il y a tout, quoi. Et des fois, il y a tout en même temps. Donc c'est un joyeux bazar émotionnel, quoi. Et puis, mais il fallait aussi que je me fasse à l'idée que j'avais pas eu l'accouchement que je souhaitais et que je rencontre vraiment mon fils. Mm-hmm. Plus cet allaitement. Enfin, voilà, ça a été 4 jours. Hein. Je suis restée 4 jours. Avec une première équipe vraiment très cocooning, très. C'est normal que vous pleuriez, c'est normal que vous ayez du mal à entrer en contact avec votre fils, parce que je ne savais pas en fait. Comme je n'avais pas pu l'avoir contre moi tout de suite après l'accouchement, pendant 2 ou 3 jours, je ne savais pas si c'était vraiment mon fils ou pas. Vraiment, j'ai eu un gros doute là-dessus, même si son père me disait « mais non, je ne l'ai pas lâché du regard, je te jure ». Oui, mais je n'ai pas pu le prendre moi, on ne l'a pas posé sur moi, c'est comme s'il manquait un bout. Une étape, en fait, au niveau de notre première rencontre. Il manque le premier bout, en fait. Et donc, cette première équipe, elle a été vraiment formidable, très, très humaine dans l'accompagnement, en tous les cas. Et à me dire, allez-y, faites du pot à pot, allez-y, donnez le sang, si... J'avais jamais l'impression de les déranger, jamais l'impression de poser des questions bêtes. Vraiment, elles étaient totalement disponibles. Enfin, c'est la disponibilité. Et puis après ça, il y a eu un changement d'équipe les deux derniers jours. Et ce changement d'équipe, là, ça a été, pour moi, j'ai craqué. C'était deux jours de larmes, 20 heures sur 24, quoi.
D'accord.
Ouais, parce que c'était, elles étaient pas trop pour l'allaitement, donc je les embêtais. Avec la césarienne, je pouvais pas me lever comme je voulais. Voilà, problème de cicatrisation, donc je pouvais pas me lever comme je voulais. Et donc, dès que je leur demandais de m'aider pour la mise au sein, c'était oui, mais regardez, votre sein, ça va pas, votre téton, ça va pas, le mamelon, ça va pas. Et puis bon, à votre âge, je me suis encore mangée à votre âge. Et puis, il a perdu beaucoup de poids, même si je savais qu'il y avait les fameux 10% de perte de poids, etc. Mais pour moi, c'était une grosse angoisse qu'ils ne prennent pas et que mon sein ne puisse pas le nourrir. Enfin, voilà, quoi. Et je ne comprenais pas. Le quatrième jour, en fait, il ne prenait plus mon sein. Et le quatrième jour, au matin, et il y a eu une visite d'une infirmière qui vérifiait voilà les constantes, etc. Et je vois dans le dossier, comment on dit, tu sais quand ils donnent du lait au bébé,
complément.
Voilà, et je vois complément. Je vois que sur ma fiche, sur la fiche des liens, je vois complément. Je me dis, c'est pas possible. Enfin, je la regarde, je me dis, comment ça se fait? Je vais lui donner des compléments, mais sous quelle forme, etc. Je fais, moi, personne ne m'en a parlé, en fait. Mm-hmm. Parce que j'avais demandé deux fois, parce que vraiment, je pouvais pas me lever, je pouvais rien faire, j'ai dit, est-ce que vous pouvez juste me garder une heure pour que je puisse dormir, récupérer physiquement, afin de pouvoir m'en occuper. Et en fait, les deux fois où j'ai demandé ça, ils m'ont donné des compléments en biberon. Les petits biberons, c'était même pas la pipette, là. Tu vois, la seringue.
Ce qui peut déjà compromettre un début d'allaitement, hein, clairement.
Voilà.
Étant donné que la fabrication se fait en fonction de la stimulation, moins le bébé stimule, moins on a de lait qui se fabrique. Et c'est vrai qu'au tout départ, ça peut aller très vite pour compromettre un allaitement.
Et bien là, voilà, il y avait eu cet épisode-là où personne ne m'en avait parlé, quoi. Mm-hmm. Et donc, du coup, mon allaitement, s'est arrêté ce jour-là parce que lui ne voulait rien prendre, en fait, au niveau de mon sein. Donc, du coup, c'est à ce moment-là où j'ai arrêté l'allaitement au sein. Et puis, je suis passée au biberon parce que, du coup, pareil, inquiète que mon fils perde trop de poids, etc. Quoi. Mais ça a été... Ça a été le plus compliqué à la nuit, plus que l'accouchement, parce que je ne savais pas si j'allais aimer allaiter mon fils, et en fait, j'ai adoré ça. J'ai adoré le voir là, la sensation que ça crée aussi au niveau du corps, au niveau du sein, le fait de le sentir aspirer. Enfin, j'avais vraiment adoré ce moment, en fait. Cette bulle, j'avais adoré. Donc voilà, mais je me dis, je l'ai allaité quand même 3 jours. Mm-hmm. Voilà, je me dis, j'ai au moins connu la sensation, je sais qu'il a été bien aussi ces 3 jours, et puis voilà, même si j'aurais voulu plus, et tant pis. Voilà, c'est comme ça aussi. Donc voilà, après, quand je suis rentrée, après coup, c'est vrai que j'ai eu du mal, en fait, à totalement entrer en contact avec mon fils. Il y avait toujours une sorte de réserve avec lui. Donc quand je suis rentrée chez moi, il y avait toujours une réserve. Enfin, moi, je me sentais un peu sur la réserve avec mon fils. Alors, je répondais à ses besoins. C'était une évidence, mais au niveau de l'affect, je savais que, enfin, je sentais que j'étais pas la maman que je voulais être. Et je sentais que je l'aimais pas au point où je pouvais l'aimer. Je sais pas si c'est clair, mais.
Que tu te mettais un petit peu des barrières quelque part ?
Ouais,
tu mettais des limites.
Ouais, vraiment, il y avait vraiment des barrières. Et puis je me suis dit, ça va pas, enfin, je peux pas laisser durer cet épisode-là, c'est pas possible. Donc je suis allée voir mon fasciathérapeute, qui agit sur les fascias, donc c'est l'étoile d'araignée entre les os, le corps, enfin, les muscles, etc. Et qui travaille vraiment tout en douceur sur le corps. Je me suis dit, je vais emmener Elliot voir mon fasciathérapeute, parce que peut-être que la césarienne, j'avais entendu dire que c'était pas, ça pouvait créer des traumatismes sur le corps des enfants, enfin affectifs, etc. Et mon fascia discute avec mon bébé, il le rencontre donc. Et il me fait, mais ton bébé va très bien, c'est toi qui as besoin d'une séance.
Mmh.
Ok.
Intéressant.
Ok. Et donc il m'a dit, bah, je vais te faire une séance à ton fils pour un truc tout doux, pour l'envelopper tout doux. Mais toi, tu reviens la semaine prochaine et on fait deux ou trois séances sur deux ou trois semaines. Ok. Et donc, il a manipulé mon fils. Enfin, c'était une tendresse. Et mon fils ne le lâchait pas des yeux. Il avait deux ou trois semaines, Elliot, trois semaines. Et donc, ça m'a rassurée de voir que mon fascia était vraiment connecté à mon fils, au bébé. Et donc, j'ai dit, OK, j'y vais pour ma séance. Donc, j'y suis allée la semaine d'après. On a vraiment discuté plus librement parce que là, du coup, Elliot était avec ma maman. Donc, j'ai pu aussi sortir un petit peu tout mon vécu de l'accouchement.
Oui.
Et voilà, et ça m'a fait énormément de bien. Et il m'a dit, bah, écoute, je vais particulièrement travailler sur ton ventre. Et dans certains cas, je préfère te le dire, ça peut provoquer toutes les sensations de l'accouchement dans la journée ou dans une semaine. Donc, je dis ok, mais j'y crois sans vraiment y croire. Quoi. Je me dis ok, bon, on verra. La séance, en tous les cas, m'a fait beaucoup de bien. J'ai senti ce ventre contenu, je l'ai senti à nouveau, en fait. Hein, parce que c'est comme si, après la césarienne, on m'avait retiré un bout de corps, quoi.
Mmh.
Et là, je m'étais enfin réapproprié mon ventre. Et je rentre chez moi et à un moment donné, je me souviendrai toujours, j'étais en train de faire la vaisselle. D'un seul coup, j'ai eu des contractions.
D'accord.
Des contractions, j'étais debout, voilà, et je me suis, en fait, je suis tenue au niveau de mon évier, et j'étais presque à quatre pattes, vraiment comme ça, au niveau du sol, et c'est comme si, en fait, j'avais senti le passage de mon fils au niveau de mon corps. Et ça m'a fait... Donc, j'ai appelé tout de suite le fascia. Il m'a dit, je savais que toi, t'étais réceptive à ça. Et le fait de ressentir des contractions, le fait de... Tu vois, il a fallu que je pousse, en fait, pour de vrai, quoi. C'était incroyable, ça a duré 30 minutes maximum.
Mm-hmm.
Mais j'ai eu les sensations physiques d'un accouchement.
D'accord, incroyable.
Mais c'était vraiment... rien que d'en parler. Enfin, j'en avais parlé à des amis qui m'ont dit que j'étais complètement barrée, que c'était pas possible de ressentir ça, mais si, ça l'est, quoi, vraiment. Et comme si j'avais pu accoucher normalement, quoi. ça m'a aidé à être en paix avec, avec la césarienne parce que finalement, j'avais pas eu de contractions, j'avais pas eu tout ça, quoi. Et là, le fait de tout ressentir et de devoir m'accrocher, de devoir vraiment, il fallait que je fasse. Je me souviens, j'avais une respiration. Je me suis dit, la vache, c'est comme la sage-femme, elle m'a dit de faire, quoi. Mm-hmm. Vraiment, c'était impressionnant. Il n'y avait que cette position qui me calmait au niveau du passage, quoi. C'était. Ouais, je me rappelle, c'était une demi-heure de intense, mais toutes les sensations y étaient, mais toutes. Et quand j'ai eu mon patient au téléphone, il était heureux. Il m'a dit, tu vas voir, maintenant tu vas pouvoir rencontrer ton fils. Mmh. Et effectivement, à partir de ce jour-là, bah, je l'ai rencontré. Mmh. J'ai pu vraiment le rencontrer.
Voilà. C'est beau d'avoir trouvé cette alternative-là. C'est vrai que je pense qu'il y a une phrase qui me plaît beaucoup, c'est de dire que toutes les naissances sont des naissances.
Oui.
Et je pense qu'il y a des gros tabous autour de la césarienne, notamment le fait que ce n'est pas vraiment une naissance ou des choses comme ça qui sont complètement aberrantes parce que ce n'est pas le cas. Et en même temps, c'est vrai que j'imagine que c'est un vécu qui est, comme tu disais, en fait, tu t'es senti dépossédée, quoi.
Ouais.
Donc c'est beau que tu aies trouvé vraiment une manière de le revivre et de te sentir complètement connectée. Enfin, aujourd'hui on sent de l'émotion et en même temps j'ai l'impression que tu es vraiment en paix avec votre histoire.
Ah oui, puis j'aime lui raconter aussi à Elliot, lui dire voilà comment il est né, comment. La période où moi j'ai eu du mal à aller vers lui, j'ai eu du mal à le rencontrer, quoi. Mmh. Et de temps en temps, en fait, je l'emmène quand même voir le fascia, parce que c'est lui qui nous a permis vraiment de nous reconnecter, parce que je sais pas si en termes de lien, tu vois, avec mon fils, je sais pas ce qu'il en serait aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu... Parce que finalement, quand tu parles de... j'en parlais autour de moi, à dire j'ai du mal à entrer en contact avec mon fils parce que la césarienne, j'ai pas l'impression que c'est mon fils, en fait. Je sais pas si c'est lui, je sais pas. Où tout le monde te dit, mais attends, vous êtes tous les deux en bonne santé, estime-toi heureuse. Tu te poses trop de questions, tu vois, enfin... du coup, on te dit, mais renferme ça dans une boîte et puis fais comme si ça n'existait pas, sauf que c'est bien réel, parce qu'au niveau du lien, ça fausse tout aussi, quoi.
Oui, bien sûr. On n'est pas habitué à écouter le ressenti comme ça, alors que finalement, il est tellement important.
Mais oui. Et les mamans, moi, je trouve qu'elles sont pas... au niveau de leurs émotions, on les félicite. On les félicite pour le bébé, etc. Mais on ne leur demande pas vraiment comment ça va. On leur demande comment ça s'est passé. Mmh. On ne leur demande pas comment tu vas. Toi, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es malheureuse? Comment tu as vécu toi tout ça, quoi. Mmh. Pas comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, tout simplement. Comment tu as vécu la rencontre avec ton enfant. Voilà. Parce que les sentiments amoureux, c'est là où j'ai pris conscience que c'est pas si inné que ça, quoi. Mm. Tomber en amour avec son enfant, il peut y avoir des petits loupés au niveau de la rencontre qui fait que ce sentiment amoureux, il va arriver, mais en différé. Mm. Donc, moi, je suis heureuse que ce ne soit pas un gros différé, mais je me dis pour les femmes qui ont un gros différé, j'ai plein d'empathie pour ces femmes-là parce que c'est dur, quoi. C'est vraiment dur, hein. C'est vraiment dur. De se dire, j'arrive pas, j'ai envie, mais j'arrive pas à l'aimer. où j'arrive pas à le rencontrer, où j'arrive pas.
Et en tant que femme, en tant que mère, on porte souvent facilement la culpabilité.
Ouais.
Du coup, ça doit être assez écrasant dans ces cas-là.
Ah oui, oui. Puis, oui, il y a la culpabilité, il y a le... Puis, oui, t'es une femme, t'as un enfant, tu dois être heureuse aux yeux de la société. Mm. Tu dois... Enfin, il y a plein de tu dois... Qui enferme et qui oblige, qui oblige quand même à renvoyer toi, qui t'oblige à renvoyer une sorte d'image de si tout va bien, et les gens après ils croient ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de croire aussi, hein, sur ce que tu veux bien renvoyer. Malheureusement, enfin, on creuse pas plus, quoi. C'est pour ça que moi j'ai envie d'aider les d'accompagner, pas d'aider, mais d'accompagner les jeunes mamans, les femmes enceintes, parce que pour moi c'est des étapes dans la vie qui sont pas si prises au sérieux que ça au niveau des émotions, au niveau de tout ce qui est, tout ce bouleversement, tout ce feu d'artifice d'émotion.
Oui, complètement. Je reste convaincue de ça aussi, quoi.
Ouais.
C'est un moment où on est très forte et très vulnérable en même temps.
Ah, mais complètement. Et puis ça brille d'une seconde à l'autre. Et en même temps, c'est magique et c'est. Ça donne une tournée et c'est. Complètement déstabilisant. Et cette sensation de vertige. Hein. Puis tout cet amour, quand on te dit tu vas ressentir tout le plein d'amour. Moi, je me souviens que j'avais vraiment rencontré Elliot, mais j'ai pleuré 2 jours d'amour pour mon fils. Dès que je le regardais, j'étais oh, mais je t'aime. je pleurais, quoi. Parce que il y avait cet amour qui envahissait tout. Et je me dis c'est beau, mais après faut pouvoir en parler aussi de tout ça, ça submerge, quoi. Ça submerge.
Et du coup, par rapport à ton expérience, est-ce que toi tu aurais envie de passer un message particulièrement? Est-ce qu'il y a des phrases qui t'auraient fait du bien? Qu'est-ce qui te voilà, à quoi tu penses?
Alors, les phrases qui m'auraient fait du bien, c'est déjà qu'on me sollicite un petit peu plus au niveau de mon avis.
Oui.
Tu vois, comme je te disais, par rapport à l'écho, je trouve que au niveau du corps médical, ils font les choses sans forcément tenir vraiment compte de l'avis, mais ils ne te demandent pas si tu veux savoir ou pas savoir. Moi, j'ai su que c'était un garçon. On me l'a annoncé, on ne m'a pas demandé avant si je voulais connaître le sexe. Donc du coup, ça retire pareil quelque chose. Moi, j'aurais voulu qu'on m'explique ce que c'était vraiment la césarienne avant de la vivre. Et puis, les phrases qui m'auraient fait du bien, c'est... Là, je suis toujours avec les professionnels, c'est... Dans la première équipe, il y avait une des auxiliaires qui me disait « Mais allez ma belle, vous faites de votre mieux, c'est chouette ce que vous faites. » Ben, ça, j'ai adoré. Ça, j'ai trouvé... Je me suis dit « Mais ils devraient tous parler comme ça en fait. Tous. À valoriser la maman, à dire « Mais... » Et ouais, ça, j'ai trouvé que... Elle le disait facilement, mais j'aurais aimé que d'autres personnes en parlent facilement. Enfin, on le dit, j'aurais aimé aussi que mon entourage, quand je parlais de ma césarienne, arrête de dédramatiser le truc. Parce que c'est mon accouchement et oui, vivre une césarienne, comme tu disais, il y a aussi toute l'image que c'est pas le vrai accouchement, etc. Et je pense que j'ai aussi eu ces pensées, ces images qui vomitent aussi un peu, en même temps, quoi. Et oui, d'accord, mais si la mère, la femme a vécu quelque chose de dramatique parce qu'on ne voulait pas une césarienne, il faut aussi que les gens puissent l'entendre et nous dire simplement bah, « je comprends ». Juste se taire, pas dire « oui, mais ton enfant va bien, tu vas bien, tu es en bonne santé ». Oui, c'est vrai, mais juste tu me prends-moi dans tes bras. Fais-moi un câlin, dis-moi que tu comprends, dis-moi que ça va aller, et des mots rassurants, mais cherche pas à nier ou à étouffer ce que je suis en train d'essayer de dire. Quoi. Je pense que c'est plus ça, tu vois, que des mots tout doux, en fait, et une vraie écoute de la part des gens. Je pense que c'est plus ça qui m'a manqué.
Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux mamans, par exemple, qui ont vécu une césarienne et pour qui c'est dur aujourd'hui?
Qu'elles s'expliquent, qu'elles disent que ça est, que c'est quelque chose de dur jusqu'à temps que ça passe. Vraiment, qu'elles le disent, qu'elles le rabâchent et peu importe la réaction des gens en face. Et que tant que pour elles, elles ont cette sensation de c'est dur, et ben faut qu'elles le disent. Faut pas qu'elles s'arrêtent en fait de dire. C'est qu'elles n'ont pas évacué tout ce qu'elles avaient à évacuer.
C'est légitime. Elles ont le droit de dire que c'était dur. Elles ont le droit de mal le vivre et
elles ont le droit de le dire et puis elles ont le droit de le sentir dans leur trip. Elles ont le droit de dire bah ouais, moi je suis déçue, je voulais pas cet accouchement. C'est dur parce que j'ai pas eu la rencontre que je voulais avec mon enfant. C'est dur parce que on est privé de quelque chose. Faut qu'elles le disent. Et après, qu'elles se trouvent aussi des alliés. J'ai envie de dire ça parce que les alliés c'est important dans ce cas-là. J'ai une amie à qui j'ai pu lui dire en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Ça m'a beaucoup aidée. Elle n'était pas du tout dans le jugement, justement. Après, j'ai eu ce fascia. Donc, c'était un autre allié. Dans le fait de vouloir exprimer c'est pas ça que je voulais. et puis après ça a fait son chemin et puis c'est vrai que après bah il y a eu Instagram aussi où j'ai vu qu'il y avait plein de mamans qui avaient mal vécu leur césarienne et je me suis dit waouh, je suis pas toute seule à avoir c'est ce sentiment, ce côté où on se dit, mais c'est pas ça, quoi. Je voulais pas ça.
C'est ça, se mettre en réseau, c'est toujours important dans ces cas-là. Est-ce que tu avais entendu parler de l'association Césarine?
Pas du tout.
C'est une association qui justement œuvre pour accompagner, qui est pleine de témoignages, et du coup, ça fait vraiment beaucoup de bien.
Après, sur Internet, j'ai pas mal discuté avec des mamans qui avaient vécu des césariennes. Et c'est vrai que bah, toutes ces discussions-là, elles m'ont aidée aussi à être en paix avec cette césarienne, avec cette cicatrice qui est là, avec les sensations qui sont toujours présentes au niveau de cette cicatrice. Et du coup, d'être vraiment en paix aujourd'hui et d'avoir fait la paix aussi dans ma tête avec cette équipe, hein, avec l'équipe médicale, hein, avec tout ce parcours, c'est mon parcours.
Ouais, c'est beau.
C'est le mien, quoi.
C'est chouette de voir toute cette sérénité que tu dégages maintenant avec ton histoire et de se dire que oui, il y a une note d'espoir, le tissage avec son enfant est tout à fait possible. Il faut réinventer, il faut trouver d'autres sources, quoi.
Puis après, il y a plein d'alliés, des assos, des témoignages, il y a plein de choses. Et l'avantage des réseaux, c'est ça, c'est que on peut tant se réparer que tant se détruire, mais autant aller dans la réparation quand même. Mais on peut trouver tellement de jolis témoignages justement sur les mamans qui ont vécu la césarienne et comment elles s'en sont sorties, quoi. Mm-hmm. C'est super joli. Faut y aller, quoi. Faut rentrer en contact avec des gens pour pas être seule.
Mais merci d'apporter ta pierre à l'édifice en venant raconter ton histoire.
Bien du tout, Laetitia, avec grand, grand plaisir.
Merci. J'espère que vous avez passé un beau moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Libre à vous de participer et de contribuer. Vous avez la possibilité de le faire via le compte Tipeee Enfanter et Devenir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.